maladroite, émotive, trouillarde. Voilà ce que ses chefs disaient d'elle. Pas vraiment l'idée que l'on se fait d'une espionne. Et pourtant, Noor Inayat Khan se révélera sur le terrain d'une efficacité et d'un courage exceptionnels et demeure aujourd'hui une des espionnes les plus extraordinaires du XXe siècle. Noor Inayat Khan fait partie de ces hommes et de ces femmes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'engagèrent dans le SOE, le Special Operations Executive, ou Bureau des opérations spéciales. Un service secret anglais, ultra secret même, qui jouera un rôle décisif dans la guerre contre l'Allemagne nazie et qui paiera un lourd tribut humain. Noor sera en 1943 la première femme du SOE envoyée en France occupée au poste le plus dangereux, celui d'opérateur radio. Une première mission qui sera aussi sa dernière, non par sa faute, mais suite à une trahison. Le SOE a été créé en juillet 1940, alors que les armées d'Hitler ont envahi presque toute l'Europe, même la France que l'on croyait invincible. Le Royaume-Uni se retrouve désormais seul. Le Premier ministre, le vieux Winston Churchill, appelle son peuple à se battre.
We shall fight in France.
Nous nous battrons en France.
We shall fight on the seas and oceans.
Nous nous battrons sur les mers et les océans.
We shall defend our island.
Nous défendrons notre île.
Whatever the cost may be.
Quel qu'en soit le coût.
We shall fight on the beaches.
Nous nous battrons sur les plages.
We shall fight on the landing grounds.
Les terrains de débarquement.
We shall fight in the fields.
Nous nous battrons dans les champs et dans les rues.
We shall never surrender.
Nous ne nous rendrons jamais.
Cet appel patriotique du 4 juin 1940, il n'est pas sûr que Noor Inayat Khan l'ait entendu à la radio. À cette date, âgée de 26 ans, elle vit encore en France, à Suresnes, près de Paris, avec ses parents. Son histoire familiale est en soi un vrai roman. Sa mère est américaine, son père est indien et musulman, issu d'une longue dynastie de guerriers. Un lointain aïeul, le sultan Tipu, surnommé le Tigre de Mysore, fut même au XVIIIe siècle un héros de la lutte contre les Britanniques. Le père de Noor, lui, n'est pas un guerrier, mais un musicien et un mystique soufi réputé qui parcourt le monde pour enseigner sa philosophie, faite de tolérance et de non-violence. C'est le 1er janvier 1914, à Moscou, dans le palais du Kremlin, ça ne s'invente pas, que la petite Noor voit le jour. Le père était invité pour enseigner le soufisme au tsar. Plus tard, la famille, toujours en mouvement et qui s'est agrandie, vit quelques années à Londres. En 1921, elle s'installe en France, à Suresnes, dans une belle maison qui existe toujours. Noor, pas très grande, mate de peau, de beaux yeux noirs, au regard intense et mélancolique, est une jeune fille heureuse mais timide, qui aime la poésie et la musique. Elle joue de la harpe. La première épreuve de sa vie, c'est la mort de son père adoré quand elle a 13 ans, et qui, face à la dépression de sa mère, l'amène à devenir la chef de la famille. Elle poursuit néanmoins ses études de musique et de pédopsychologie à la Sorbonne. En 1940, à 26 ans, Noor publie un recueil d'histoires pour enfants, édité en plusieurs langues. Elle vit sa première histoire d'amour et sa première rupture. Mais en juin 1940, survient le deuxième cataclysme. Les troupes d'Hitler envahissent la France. Comme des millions de Français, Noor et sa famille prennent la route chaotique de l'Exode. À Bordeaux, ils réussissent in extremis à s'embarquer pour l'Angleterre. À leur arrivée, ils découvrent un pays et un peuple en état de siège, dressés contre la menace d'une invasion terrestre et aérienne.
Des aérodromes situés en pays conquis, les avions de bombardement de Göring décollaient à destination de l'Angleterre. Contre cette stratégie basée sur la terreur, se dresse la tranquille puissance de la Grande-Bretagne.
Noor et son jeune frère, Vilayat, sont confrontés à un choix moral et philosophique. Comment combattre le nazisme quand on a été élevé dans la non-violence? Mais alors qu'un déluge de bombes s'abat sur l'Angleterre, il n'hésite pas longtemps. En novembre 1940, Vilayat s'engage dans la Royal Navy, la marine anglaise, dans le secteur du déminage. Et Noor dans les WAF, les Women's Auxiliary Air Forces, la force féminine auxiliaire de l'aviation, pour y apprendre le travail d'opératrice radio. des secteurs dangereux, mais où ils n'auront pas à utiliser une arme et donc à tuer.
It is up to the women of Britain to take over the non-combatant duties.
Aux femmes de Grande-Bretagne de s'emparer des devoirs des non-combattants.
Whether you are married or single.
Que vous soyez marié ou célibataire,
if you are between the ages of 17
si vous avez entre 16 ans et demi et 45 ans,
there is a job waiting for you,
il y a un travail qui vous attend, un travail qui doit être accompli.
You are vital to the offensive.
Vous êtes vital pour l'offensive.
Noor Inayat Khan suit l'entraînement intensif dans les WAF et devient une opératrice radio accomplie avec le grade de caporal. Comme vous le voyez, pour l'instant, il n'est pas question d'espionnage. Mais le 10 octobre 1942, Noor est convoquée à un mystérieux rendez-vous qui, elle l'ignore encore, va bouleverser sa vie. Elle est attendue chambre 238 à l'hôtel Victoria, un ancien palace près de Trafalgar Square à Londres, réquisitionné par le ministère de la guerre. Là, elle est reçue et questionnée par Selwyn Jepson, un étonnant personnage comme seuls les services secrets britanniques peuvent en inventer. Dans la vraie vie, Jepson est écrivain, auteur de romans policiers et scénariste de comédies légères. Il sera par exemple l'auteur après-guerre du scénario du Grand Alibi de Hitchcock avec Marlène Dietrich. Mais pour l'instant, il est surtout secrètement l'officier recruteur du SOE de la section F, F comme France. Chaque pays d'Europe occupé a sa propre section. Le secteur F est dirigé par Maurice Buckmaster. Le film « Agent secret SZ », réalisé après-guerre, raconte le recrutement d'une femme au SOE.
Bonjour. Entrez, asseyez-vous.
Merci.
Bon, vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai fait venir. Vous parlez français aussi ?
Oui, j'ai été élevée en français et en anglais.
Et vous êtes une vraie athlète, on m'a dit. Et vous tirez bien au pistolet ? Vous avez, je crois, des qualifications qui peuvent nous être très utiles.
Des qualifications pour quoi faire ?
L'effort de guerre. Je dois vous le dire tout de suite. Il s'agira d'un travail dangereux.
Écoutez, je pense vraiment que vous vous trompez de personne. Quel genre de travail ?
À sa grande surprise, Noor se voit proposer d'effectuer des missions en France occupée en tant qu'opératrice radio, non pas pour l'armée à laquelle elle appartient, mais pour les services secrets britanniques. Et pas n'importe lequel, le SOE, dont bien évidemment elle n'a jamais entendu parler. Ce service ultra-secret, créé en juillet 40 par Churchill pour, je cite, « mettre le feu à l'Europe ». Contrairement au MI5 et au MI6, les services de renseignement anglais traditionnels, avec lesquels d'ailleurs il entretiendra une forte rivalité, le SOE est un service d'action subversive. Dépendant directement du Premier ministre, doté de moyens énormes, il a une double vocation. Envoyer des espions dans les pays d'Europe occupés par les nazis pour y mener des actions de sabotage, destruction de sites industriels, déraillement de trains, et aussi pour organiser la résistance sur le terrain. Son but ?
Donner un sentiment d'insécurité à l'ennemi par la ruse, la souplesse, la soudaineté et la surprise.
Et pourquoi donc faire appel à Noor Inayat Khan, cette jeune femme en apparence si douce ? Tout simplement parce que fin 1942, la section F du SOE manque cruellement d'agents parlant français et particulièrement d'opérateurs radio. Et comme les hommes manquent, le SOE se résout à recruter des femmes. Une nouveauté parfois mal vue au gouvernement. Selwyn Jepson racontera plus tard :
Selon moi, les femmes étaient bien meilleures à ce boulot que les hommes. Elles sont capables de beaucoup plus de courage et de sang-froid dans la solitude. Les hommes ont toujours besoin d'un copain avec eux. Ils n'arrivent pas à travailler seuls. Mais tout le monde n'était pas d'accord dans les services. Jusqu'à ce que je rencontre Churchill. Il m'a dit en grognant
« Vous faites quoi ?»
Je lui ai expliqué et il m'a dit
« Il paraît que vous utilisez des femmes. »
« Oui, vous ne pensez pas que c'est une bonne chose à faire ?» Et il m'a répondu
« Oui, bonne chance. »
C'est ce qui m'a donné mon autorité.
Selwyn Jepson ne cache pas à Noor les dangers d'un tel engagement.
Vous vous rendez bien compte. Vous mettez votre vie en jeu. Peut-être que vous ne reviendrez pas.
Comme tous les espions, elle devra ne rien révéler de ses activités à ses proches, prendre une nouvelle identité. Et si elle est capturée par l'ennemi, comme elle ne porte pas d'uniforme, elle ne pourra se prévaloir de personne, ne bénéficier d'aucune protection des conventions de Genève, et elle sera sans doute torturée et fusillée. Noor sait aussi que l'espérance de vie d'un opérateur radio en mission n'excède pas 6 semaines. Mais quelques jours plus tard, elle répond par une lettre qui est conservée dans les archives.
J'accepte, avec gratitude, le privilège d'accomplir la mission que vous me proposez. Je serai de quelque utilité, à condition que le travail soit purement opérationnel.
Purement opérationnel, donc, toujours ce souci de la non-violence. D'ailleurs, quand elle partira en mission, Noor refusera d'emporter le petit pistolet qui lui aura été confié. Un pistolet que l'on peut toujours voir à Londres, à l'Imperial War Museum. Très vite, le 29 février 1943, Noor Inayat Khan commence dans des lieux clandestins son entraînement intensif d'agent secret, tant physique que psychologique. Savoir survivre en territoire ennemi, supporter la faim, la soif, ramper dans les buissons, franchir des rivières glacées, braconner, scier des barreaux de prison, connaître les techniques de la clandestinité, mentir sans en avoir l'air, repérer quand on est suivi, semer le suiveur. Un docu-fiction réalisé après-guerre raconte la formation des espions du SOE.
Nous présumons que toute l'organisation est tombée et nous devons envoyer de nouveaux organisateurs et opérateurs radio aussi vite que possible. Il y a des gens qui conviendraient.
Il y a une femme et un homme qui viennent de terminer leur entraînement.
Faites en sorte qu'ils soient prêts à la prochaine lune et envoyez-les sur le terrain.
Juin 1943. Noor Inayat Khan est encore en formation quand elle apprend qu'elle va être envoyée en mission. Elle n'a même pas encore appris à sauter en parachute. Pourquoi la choisir elle ? Tous ceux qui rencontrent Noor Inayat Khan à cette époque sont frappés par sa forte personnalité. J'ai pour elle une grande admiration. Elle est extrêmement consciencieuse. C'est une merveilleuse créature de brume et de rêve, déclare un condisciple, sans doute un peu amoureux d'elle. Elle est vraiment remarquable, il suffit de la voir une fois pour ne jamais l'oublier. En 1974, Raymonde Lacour, une amie d'enfance, se souviendra avec émotion de Noor.
Je l'ai connue tout enfant. Elle devait avoir 7-8 ans et elle n'était pas dans ma classe. Ça me semblait tout à fait étrange, cette petite fille brune. Elle avait la peau très mate, avec de très grands yeux, le nez droit et fin. De très longs cheveux, elle a toujours eu ses cheveux magnifiques. Et quand je l'ai revue au moment où elle est venue en France pour faire de la résistance, elle avait teint ses cheveux.
Elle était intelligente.
Elle était très intelligente, mais elle ne faisait jamais étalage ni de son intelligence, ni de ses relations, ni de ses connaissances. C'était vraiment quelqu'un un être idéal, si vous voulez. Qui ne semblait pas reposer sur terre. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que, à mon point de vue, je ne la voyais pas faisant une action aussi courageuse, aussi
extraordinaire.
Voilà.
Les rapports de ses chefs, en revanche, sont plus terre à terre. Elle est maladroite, émotionnelle, effrayée par les armes. Elle ne souffre même pas d'un excès d'intelligence. C'est une nature instable et fantasque, et l'on peut fortement douter de son aptitude à travailler sur le terrain. C'est pourtant elle que Maurice Buckmaster choisit pour partir en France en juin 1943. Il a confiance en elle, mais surtout, il faut bien le dire, il n'a pas le choix. Elle est la seule opératrice radio parlant français disponible. Et il faut agir vite. En France, le réseau Prosper est fragilisé. Cet immense réseau de résistance, comptant plusieurs centaines d'hommes et de femmes, dont le terrain d'action s'étend à tout le nord-ouest de la France, jusqu'à Paris inclus, vient de connaître plusieurs arrestations et manque cruellement d'un opérateur radio pour communiquer avec Londres. « Noor doit partir à la prochaine pleine lune, quand la visibilité est la meilleure. Elle écrit une lettre d'adieu à son frère, sans lui donner bien sûr aucune indication sur son engagement au SOE.
Mon cher frère, peut-être nous reverrons-nous un jour quelque part. Le devoir nous sépare, chacun à l'autre bout du monde. Mais cela ne pourra que renforcer nos liens. Porte-toi bien et souhaite-moi bonne chance.
16 juin 1943, ça y est, le décollage est pour cette nuit. À la BBC, un message personnel est envoyé sur les ondes pour prévenir la résistance en France de l'arrivée de l'avion le lendemain.
Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents.
Tangmere, une base aérienne au sud de l'Angleterre. Avant d'embarquer dans le Westland Lysander qui l'attend sur le tarmac, Noor reçoit son équipement. La tenue d'abord. Rien n'est laissé au hasard. Le moindre détail qui, si elle est arrêtée, pourrait révéler qu'elle vient d'Angleterre est proscrit. Une étiquette de magasin, la qualité d'un tissu, la forme d'un col ou d'une boutonnière trop british.
Si vous laissez passer, et vos cartes de rationnement. Chacune d'entre vous devra apprendre par cœur sa nouvelle identité. C'est très important. Si la Gestapo vous arrête, la consigne c'est de tenir 48 heures sans rien dire.
48 heures ?
En dernier recours, il vous reste ça.
C'est du cyanure ?
Ouais. Cachez-le soigneusement sur vous et en cas de besoin, croquez-le. Le poison agit en 5 minutes.
On donne à Noor Inayat Khan ses faux papiers d'identité française. Elle s'appelle désormais Jeanne-Marie Régnier. Profession, bonne d'enfant. Nom de code, Madeleine, et son mot de passe radio, Nurse.
God bless you, and be with you always.
On lui donne de faux tickets de rationnement et la fameuse capsule de cyanure, un poison violent qui tue en quelques secondes. Si elle est arrêtée et interrogée, Noor devra l'avaler et mourir pour ne pas parler sous la torture. Au petit matin du 17 juin 43...
Ils sont là, venez vite.
Le Westland Lysander atterrit en pleine campagne, dans la vallée du Loir, au nord d'Angers.
Bonsoir, comment ça va? Allez, vous faites votre voyage? Voilà, va,
va. Welcome, mademoiselle.
Noor Inayat Khan est la première femme opératrice radio du SOE à être envoyée en France occupée. Buckmaster a conscience qu'elle risque gros.
Noor occupe le poste le plus important et le plus dangereux.
La situation sur le terrain est en effet très grave. Les Allemands sont sur les dents. Ils savent qu'un débarquement allié se prépare, mais quand et où, ils l'ignorent. Leur but, opérer d'importants coups de filet pour démanteler les mouvements de résistance et obtenir le maximum d'informations. Plusieurs agents du réseau Prosper ont déjà été arrêtés. Une semaine seulement après l'arrivée de Noor, le réseau est décapité par l'arrestation de la plupart de ses chefs et d'environ 400 hommes et femmes. Cette hécatombe s'explique, semble-t-il, par des imprudences commises au sein d'un réseau devenu tentaculaire. Mais surtout, on ne le saura que bien plus tard, par la présence d'un agent double, Henri Déricourt, qui fait lire aux Allemands tous les messages avant de les transmettre à Londres. C'est donc dans cette situation dramatique que Noor Inayat Khan va tenter de mener à bien sa mission. Pendant 4 mois, elle sera le seul lien entre ce qui reste du réseau et le SOE à Londres. Afin d'échapper à la détection de plus en plus précise des Allemands, la radiogoniométrie, un système d'antennes qui par triangulation permet de localiser le lieu d'émission, Noor sait qu'elle ne doit envoyer que des messages courts et changer de lieu et d'heure. C'est pourquoi elle, si frêle, ne cesse de se déplacer dans Paris avec son émetteur radio de 15 kilos caché dans une valise, semant les Allemands qui, depuis des semaines, elle l'ignore, sont sur ses trousses. À la fin de l'été 1943, Noor est la seule opératrice radio encore en activité dans un large rayon autour de Paris. Comment cette jeune femme, livrée à elle-même, vit-elle ce danger dans une capitale française infestée de nazis ? Elle a peur, sans doute. Mais dans un message adressé à Londres, on voit qu'elle trouve aussi la vie d'espionne très excitante.
Je suis très heureuse. C'est magnifique de travailler pour vous. Je vis les meilleurs moments de ma vie.
Septembre 43, Noor ne cesse d'émettre. Elle informe Londres du nombre d'agents du réseau Prosper qui ont été arrêtés et des rares qui sont encore en action. Elle réussit à organiser des parachutages d'armes. Mais l'étau se resserre. Le danger est tel qu'elle reçoit l'ordre de rentrer en Angleterre. Noor refuse. La résistance a besoin d'elle, dit-elle. Elle ne partira que lorsque la relève sera assurée. Soudain, dans la deuxième semaine d'octobre, c'est le silence. Plus aucun message de Noor ne parvient à Londres. Pas le moindre signe pendant 10 jours. Et puis, étrangement, son appareil se met à émettre de nouveau. Les messages ressemblent à ceux de Noor. Mais à y prêter attention, ils n'ont pas exactement son style. Chaque opérateur, en effet, a son toucher, son rythme, reconnaissable seulement aux oreilles expertes. Au siège du SOE à Londres, on comprend que Noor a sans doute été arrêté. Mais comment en être sûr? Pendant 2 mois, Londres tente de piéger son interlocuteur avec des questions personnelles sur Noor, sur sa famille, ses habitudes. Au début, il n'y a pas de réponse. Puis, quelques jours plus tard, les réponses tombent, précises et justes. Alors, dans le doute, Londres poursuit les livraisons d'armes et d'argent demandées par l'émetteur de Noor. De nouveaux agents sont même parachutés en France. Le SOE n'aura jamais plus de nouvelles de Noor Inayat Khan. Mais c'est la guerre. D'autres agents, d'autres opérateurs radio prendront sa place, d'autres disparaîtront. C'est le sort terrible des espions morts en mission, anonymes et solitaires. Et puis, le grand jour tant attendu, pour lequel Noor et ses compagnons se battaient, arrive enfin. Le débarquement allié le 6 juin 1944. Un an après, le 8 mai 1945, sonne la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'heure est à la joie de la victoire et à la reconstruction. Mais pour les familles des espions disparus du SOE, le deuil est impossible. C'est bien après la guerre que la famille de Noor apprendra ce qui lui est arrivé. Grâce notamment à l'obstination d'une femme, Vera Atkins, l'adjointe de Maurice Buckmaster à la tête de la section F du SOE. C'est elle qui, en 1946, part en Allemagne pour tenter de savoir ce qui est arrivé à Noor Inayat Khan et aux 12 autres femmes du SOE qui ne sont jamais revenues. Elle interroge des nazis emprisonnés, elle rencontre d'anciennes détenues, et au fil des entretiens, au fil des années, avec aussi l'ouverture des archives du SOE, tel un lent puzzle, un récit va finalement prendre forme. Les soupçons de Londres en octobre 1943 étaient justes. Noor Inayat Khan a bel et bien été arrêtée. Elle est arrêtée sans doute le 13 octobre 1943 dans le petit appartement du 16e arrondissement où elle planque alors à l'angle de la rue de la Faisanderie et de la rue du Frénoy. Celle qui n'avait que 6 semaines d'espérance de vie a tenu 4 mois en réalisant le travail de 4 opérateurs radio. Mais cela fait déjà plusieurs semaines que le SD, le service de renseignement allemand, écoutait et étudiait les messages envoyés par Noor. Et lorsqu'ils mettent la main sur son émetteur, ils n'ont donc aucun mal à l'utiliser et à tenter de gruger Londres en envoyant de faux messages signés Noor. Cette technique de désinformation par radio-émetteur interposé, les Allemands l'appellent le Funkspiel, le jeu de radio. Un faisceau de causes peut expliquer l'arrestation de Noor Inayat Khan. La trahison d'abord, bien sûr, d'Henri Déricourt, l'agent double qui a conduit à la chute générale du réseau Prosper. Ensuite, la localisation de l'émetteur. Mais surtout, Noor a été dénoncée. On a souvent dit que c'est la sœur d'un résistant, Henri Gary, qui, par jalousie, aurait vendu Noor pour 100 000 francs. Mais un procès après-guerre l'acquittera. Une ombre peu glorieuse demeure aujourd'hui sur la chute du réseau Prosper et par contre-coup sur celle de Noor Inayat Khan. Certains historiens soupçonnent le gouvernement anglais d'avoir délibérément lâché le réseau dans le cadre d'une opération de mystification visant à faire croire aux Allemands un débarquement allié dans le Pas-de-Calais. Pour d'autres historiens, une trahison par Londres est totalement impensable. Le 13 octobre 1943, en tout cas, Noor Inayat Khan est conduite à la Gestapo avenue Foch, interrogée par son numéro 2, Hans Kiefer. Après-guerre, avant d'être condamné à mort, Kiefer racontera à Vera Atkins le souvenir très précis qu'il gardait de Noor, dont il ne connaissait que le nom de code.
Madeleine, après sa capture, montra beaucoup de courage. Dès son arrivée, elle a fait une tentative d'évasion par le toit, en sortant par une fenêtre des toilettes du cinquième étage. Mais les gardes l'ont rattrapée. On a gardé Madeleine 2 mois avenue Foch, d'où elle a fait une deuxième tentative d'évasion qui a aussi échoué.
Et le numéro 2 de la Gestapo poursuit.
Nous n'avons pu obtenir aucune information de la part de Madeleine. Je suis sûr même qu'elle nous a menti. On ne pouvait croire à rien de ce qu'elle disait.
Noor Inayat Khan, que l'on disait maladroite, émotive, trouillarde, s'est donc révélée d'un courage exceptionnel face à la torture et sans doute aussi au viol. Rares étaient les femmes interrogées qui y échappaient. Hans Kiefer, furieux sans doute de n'avoir rien pu obtenir d'elle sur le fonctionnement du SOE, fait déporter Noor en Allemagne avec d'autres Nacht und Nebel, nuit et brouillard, des prisonniers amenés à mourir sans laisser de traces. Fin novembre 1943, Noor arrive à la prison de Pforzheim. Gardée au confinement, mains et pieds enchaînés, elle est battue, à peine nourrie, mais elle ne parle toujours pas. Le 11 septembre 1944, alors que les armées alliées qui ont libéré la France s'apprêtent à entrer en Allemagne, les nazis l'expédient en catastrophe au camp de concentration de Dachau pour qu'elle y meure. Un gardien du camp, réputé pour son sadisme, Friedrich Wilhelm Rupert, le 13 septembre, la bat à mort et l'exécute d'une balle dans la tête en hurlant « Heil Hitler ». Un témoin racontera que Noor Inayat Khan lui a répondu dans un ultime soupir
« Liberté ».
Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.